Réplique, promenade avec La Fontaine, avec Jacques Réda et Jean-Yves Tadier. Ce n'est pas à un débat, mais à un exercice d'admiration que j'ai convié aujourd'hui Jean-Yves Tadier et Jacques Réda, qui publient un La Fontaine dans la collection « Les auteurs de ma vie » chez Buchet-Chastel. Pour commencer cet exercice et entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire en l'occurrence dans le corps du texte, je voudrais demander à mes deux invités de lire quelques vers de celui qu'on a longtemps appelé, avec une affection un peu condescendante, le bonhomme, et de nous expliquer leur choix. Jacques Réda.
J'ai choisi un passage des Amours de Cupidon, le passage versifié, et que je considère un peu comme une sorte de proclamation d'art poétique de La Fontaine, un art poétique non pas déguisé ni involontaire, mais simplement qui ressort de lui-même, de l'ensemble de son œuvre. Ô douce volupté, sans qui dès notre enfance le vivre et le mourir nous deviendraient égaux, aimante universelle de tous les animaux que tu sais attirer avec violence. Par toi tout se meut ici-bas, c'est pour toi que c'est pour tes appâts que nous courons après la peine. Il n'est soldat, ni capitaine, ni ministre d'État, ni prince, ni sujet qui ne t'ait pour unique objet. Nous autres nourrissons, si pour fruit de nos veilles un bruit délicieux ne charmait nos oreilles, si nous sentions chatouillés de ce ton, ferions-nous un mot de chanson. Ce qu'on appelle gloire en termes magnifiques, ce qui servait de prix dans les Jeux Olympiques n'est que toi proprement, divine volupté. Et le plaisir des sens n'est-il de rien compter? Pourquoi sont faits les dons de Flore, le soleil couchant et l'aurore, Pomone et ses médélicats, Bacchus, l'âme des bons repas, les forêts, les eaux, les prairies, mère des douces rêveries? Pourquoi tant de beaux arts qui tous sont ses enfants? Mais pourquoi les Chloris aux appâts triomphants que pour maintenir ton commerce? J'entends, innocemment, sur son propre désir, quelque rigueur que l'on exerce, encore y prend-on du plaisir. Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce, ne me dédaigne pas, viens t'en loger chez moi, tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Viens donc, et de ce bien, ô douce volupté, veux-tu savoir au vrai la mesure certaine? Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté, car 30 ans, ce n'est pas la peine.
Pourquoi ce choix, Jacques Réda?
Parce que un des motifs de mon plaisir à La Fontaine, de mon attachement à sa poésie, aussi bien qu'à sa prose d'ailleurs, qui présente un peu les mêmes caractères, mais d'une façon moins accentuée, c'est une forme de volupté aussi. Le mot volupté, comme beaucoup, a pris un caractère un peu différent de celui qu'il avait au siècle de La Fontaine. C'est-à-dire, en effet, il y a toutes sortes de voluptés. La volupté qu'on éprouve promenade à la campagne. La volupté a pris une tournure très précise. C'est la volupté sexuelle. Alors, bien sûr que La Fontaine ne l'exclut pas. Il a même ce court passage que je trouve tout à fait charmant. Il parle des voluptés, j'entends innocemment. Il dit, sur son propre désir, quelque rigueur que l'on exerce, encore y prend-on du plaisir. Il y a aussi une volupté de brider la volupté. C'est une chose à étage comme ça. Et la volupté, moi je trouve, c'est celle du verre. Proprement dit, la volupté du verre, ou le plaisir, quelquefois, qui a complètement disparu du champ, même de l'amour de la littérature de nos jours, parce que on n'enseigne plus à les lire, on n'enseigne plus à les dire, on n'enseigne plus à les entendre, et tout 100, plus de 100 ans de... Oui, qu'est-ce que je dis, 125 ans de vers dits libres ont à peu près démoli l'édifice qui s'était construit en 1000 ans.
Oui, alors, vous me coupez un peu l'herbe sur le pied, Jacques Reda, parce que j'avais moi-même choisi un extrait des Amours de Psyché et de Cupidon, et j'avais voulu isoler ces vers qui me semblent parmi les plus beaux de la langue française, ce qui sont un peu comme la citation par excellence. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Je dis la citation par excellence parce que c'est d'une beauté extrême et c'est tout un art de vivre aussi. Une définition de l'hédonisme qui est à ce point ouverte et radicale qu'elle inclut ce qui est apparent, en apparence le contraire du plaisir, puisque il forge ce magnifique oxymore, le sombre plaisir d'un cœur mélancolique, et ce il n'est rien qui ne me soit souverain bien. Le souverain bien, c'est le bien qui, en quelque sorte, dévalorise tous les autres. Or là, tout d'un coup, tout est souverain bien, des choses les plus futiles en apparence, comme le jeu. Et les choses les plus sérieuses comme les livres, la ville et la campagne, et l'amour évidemment. Mais l'amour, en effet, une volupté parmi d'autres. Et je suis en effet particulièrement sensible à ces vers, et notamment pour les raisons que vous avez dites, Jacques Reda. Et maintenant je me tourne vers Jean-Yves Favier, et je le convie, s'il le veut bien, au même exercice.
J'ai choisi une fable du livre 8, Les obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu, ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince, au cri, s'abandonna et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. J'ai défini la cour un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'ils plaident au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps, c'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire ? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible et surtout celle du roi Lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit « Chétif hôte des bois, tu ris !» Tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. Le cerf reprit alors. Sire, le temps de pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre les fleurs, tout près d'ici, m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux Champs-Élyséens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. À peine on eut oui la chose qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose !» le cerf fut à présent bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les l'agréable mensonge, quelque indignation de leur cœur soit remplie, ils goberont la pas, vous serez leur ami. Ah oui, j'ai choisi cette fable, d'abord, peut-être un détail biographique, c'est par elle que j'ai découvert les fables de La Fontaine. Non pas par l'enseignement, mais un jour, à 15 ou 16 ans, j'écoutais comme d'habitude, dimanche après-midi, une merveilleuse émission de la radio qui s'appelait le Club d'essai de la radio française, et Marcel Jouhandeau commentait cette fable en la rapprochant des funérailles de la mort du grand dauphin dans les mémoires de Saint-Simon. Passage extraordinaire où on voit tous les personnages principaux de la cour feindre le chagrin ou cacher leur joie ou leur espoir. Et il montrait que c'était la même chose malgré la différence de dimension, que c'était la même comédie humaine ici représentée. Alors ça, c'est un premier trait qui me frappe, c'est l'aspect d'actualité, parce qu'il y aura toujours un pouvoir, il y aura toujours des courtisans. Et l'attitude des courtisans est ici, évidemment, mise en scène à la manière de Molière, par exemple, et c'est souvent extrêmement drôle quand on les voit tous entonner le cœur du chagrin. En même temps, ce qui est très remarquable aussi, c'est la sorte de distance que prend La Fontaine avec son histoire. Il part comme d'habitude d'une histoire d'animaux, et en même temps, il n'en est pas dupe. Par exemple, il plaisante sur l'antre du lion. Bien sûr, les lions n'ont point d'autre temple. Nous ne sommes pas à Versailles, mais en même temps, nous sommes aussi à Versailles, ou à l'Élysée, ou partout ailleurs. De même encore, lorsqu'il cite Salomon, c'est-à-dire le livre des Proverbes, en l'occurrence, la colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et il ajoute aussitôt, mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Donc, il plaisante sur son propre sujet, sur ses propres histoires d'animaux, avec cet humour qui imprègne. Il y a l'humour, il y a l'ironie à la fois dans cette fable. Et ensuite, bien sûr, il y a la violence de la satire. Parce que ce qui me frappait en lisant, grâce à vous, La Fontaine, c'est le courage et la violence de ses critiques. Critique du souverain, bien sûr, qui est directement attaqué. Et Louis XIV est quelqu'un qui a perdu une femme ou deux, et qui lui aussi a dû être entouré du chagrin de ses courtisans, notamment à la mort de Marie-Thérèse. Et d'autre part, non seulement le prince lui-même est critiqué, mais tout le pouvoir, tous les milieux dirigeants. Là, c'est la société qui dirige la France, qui est ici attaquée avec la plus grande force et qui apparaît comme ridicule, peuple caméléon, peuple singe du maître. Ce qui me frappe aussi, c'est la virtuosité du poète. Il passe de l'octosyllabe à l'alexandrin et d'alexandrin à l'octosyllabe comme plus tard Apollinaire, et quand est-ce que ça s'allonge? On passe de l'octosyllabe à l'alexandrin quand il s'agit d'entamer la partie grave du discours. Je définis la cour. Je définis la cour, un philosophe ne dirait pas autrement, il y a quelque chose de cartésien dans ce procédé. Je définis la cour, un pays où les gens, et là nous parlons en alexandrin. De même encore, la morale est exprimée en alexandrin. En revanche, quand on plaisante, quand le lion dit « nos sacrés ongles », c'est-à-dire nos ongles sacrés, bien sûr, toute partie du corps du roi est sacrée. Là, nous sommes en octosyllabe parce que nous sommes dans la comédie. Venez, loup, vengez la reine. Et enfin, il y a l'art du récit, bien sûr, parce que même si les érudits nous disent qu'il y a des sources, c'est complètement transformé dans les récits. Nous nous passionnons en réalité pour la petite histoire. Et finalement, dans cette fable, ce qui est frappant, c'est la pluralité des niveaux. C'est-à-dire qu'il faut faire un certain nombre de lectures, il faudrait beaucoup de temps sans doute pour les faire toutes. Il y a la petite histoire qui nous passionne, il y a la satire politique, il y a l'audace du poète, il y a son humour final, son rire, le rire du cerf, c'est le rire de La Fontaine, finalement, que nous entendons dans cette fable.
Alors, ce rire de La Fontaine, là, m'évoque les commentaires de Marc Fumaroli dans son livre « Le poète et le roi ». où il dénonce à un moment la confusion entretenue sous le nom trompeur de classicisme entre l'académisme officiel du règne et la liberté que quelques poètes de génie réussirent quelque temps à opposer à la glaciation progressive des lettres du grand siècle. Et un peu plus loin dans le livre, Marc Fumaroli dresse la liste des fables qui sont comme des apologies de la liberté. Le chêne et le roseau, notamment, qui marquent la supériorité spirituelle du poète, la résistance flexible mais fidèle de sa parole, au regard de la force matérielle, bombant le torse mais vaine des puissances de la terre, le loup et le chien, le rat de ville et le rat des champs, où c'est l'éloge de la liberté qui ne se laisse ni acheter ni corrompre, et sans laquelle il n'est pas de vraie joie et qui est au principe de tout art et de toute vie honnête. Et vous-même, Jacques Reda, vous citez un autre poème, parce qu'il y a une anthologie à la fin de votre livre, qui va tout à fait dans le même sens, le vieillard et l'âne. La morale de l'histoire, notre ennemi c'est notre maître, je vous le dis en bon François ou en bon Français. Donc c'est quand même assez extraordinaire cet éloge constant de la liberté dans les fables de La Fontaine et cette critique explicite des courtisans au siècle de Louis XIV.
Très souvent des...
Jacques Reda.
Pas vraiment des charges, mais des piques sérieuses contre les puissants. Ceux qui sont les puissants, les seigneurs. C'était assez culotté à l'époque de la part de La Fontaine, qui n'a jamais été bien en cours par rapport à Louis XIV. Il a toujours été un peu sur le...
Il y a eu son amitié avec Fouquet aussi.
Alors, il y a eu en plus l'amitié avec Fouquet, où il s'est montré particulièrement courageux.
Pourquoi courageux, c'est-à-dire
Avec notamment son élégie aux nymphes de Vaud, la lettre en vers qu'il a d'ailleurs adressée au roi sur la clémence.
Oui, c'est ça.
La clémence, l'éloge de la clémence. Il dit que la clémence est en définitive la vraie gloire des Césars.
Ode au roi que vous citez également.
Oui, oui. Je,
l'amour est fils de la clémence, la clémence est fille des dieux. Sans elle, toute leur puissance ne serait qu'un titre aux dieux. Parmi les fruits de la victoire, César, environné de gloire, n'en trouva point dans la douceur à celle-ci pu être égale, non pas même au champ ou farsale, l'honora du nom de vainqueur. Et ça, évidemment, c'est...
Oui. Alors, on ne sait pas si Louis XIV l'a vraiment lu. C'était une épître adressée au roi, mais... Ça ne lui arrivait pas comme ça par la poste.
Il n'a pas réagi. Fouquet a été libéré pour mourir 3 mois avant.
Oui, c'est-à-dire qu'il a été emprisonné, je crois, 18 ans. Dans des conditions terribles.
Le livre qui le fait mieux voir, c'est le vicomte de Bragelonne, d'ailleurs. On voit aussi La Fontaine sous un jour très, très favorable. On voit ce martyr de Fouquet, qui est amoureux des lettres, bien sûr, corrompu, bien sûr, mais Colbert ne l'était pas moins. Simplement, il avait eu la prudence de ne pas montrer son château à Louis XIV.
Oui, alors ce qu'on ne sait pas, c'est si puisqu'à la suite de l'arrestation de Fouquet, un certain nombre de gens ont trinqué, comme on dit, comme il arrive de nos jours. Il y a un des adjoints de Genard, qui était un parent de La Fontaine, d'ailleurs, qui a été exilé à Limoges. C'était un exil déjà considérable. La Fontaine l'a accompagné, mais on ne sait pas exactement s'il était lui-même un peu visé par cette mesure. Probablement pas, puisqu'il est revenu à la fin du voyage, qui a duré assez longtemps, aller à Limoges en diligence ou en poste ou en carrosse. À l'époque, ça n'en finissait pas. Mais c'est le seul voyage vraiment qu'il ait effectué de sa vie, si on compte pas les allers-retours entre Château-Thierry, Paris, sans doute Versailles, d'autres endroits. Et c'est grâce à ce voyage qu'on dispose d'un vrai corpus assez cohérent de lettres qu'il a écrites à sa femme.
Oui.
Et qui sont d'ailleurs des lettres dont l'intention n'était pas de les garder dans l'intimité. On voit bien qu'il s'adresse un petit peu au-delà d'elle à tout un petit public complice. Et oui, alors où apparaît dans toute à plein son ironie, mais sa bonhomie aussi, ce qu'on appelle sa bonhomie. J'aime pas beaucoup le terme non plus. J'aime pas beaucoup qu'on parle du bonhomme La Fontaine. Mais enfin, il y avait une, il y avait une indulgence de son caractère, une indulgence dont il savait qu'il fallait qu'elle existât parce qu'il il en était le premier bénéficiaire, je crois.
Ah oui, d'accord. Dans l'extrait que des Amours de Psyché et de Cupidon que vous avez lu, Jacques Reda, il y a ces derniers vers qui m'ont beaucoup frappé. Viens donc, et de ce bien, ô douce volupté, veux-tu savoir au vrai la mesure certaine ? Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté, car 30 ans, ce n'est pas la peine. Je dis que ça m'a beaucoup frappé.
Oui, ça, c'est l'humour de La Fontaine,
oui,
ça, bien sûr. Aussi.
L'humour, mais aussi la mélancolie, une certaine inquiétude, parce que la mort, malgré tout, est très présente dans les fables. La mort et le malheureux, la mort et le bûcheron, la mort et le mourant. Il y a une sorte de protestation contre la mort. Dans La mort et le malheureux, un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle, viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort croit qu'elle est invitée, donc elle arrive. « N'approche pas, ô mort, retire-toi, » dit aussitôt l'homme. Les derniers vers de la fable, « Mécénas fut un galant homme, il a dit quelque part qu'on me rende impotent, que de jade goûteux, manchot, pourvu qu'en somme, je vive, c'est assez, je suis plus que content, ne viens jamais aux morts, on t'en dit tout autant. » Alors, évidemment, il y a une sorte d'appel à la résignation dans la mort et le mourant, puisque la mort ne doit pas surprendre le sage, et La Fontaine met en scène un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie et se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignit de partir tout à l'heure. Il allègue toutes sortes de raisons auxquelles elle répond « Il est plus que temps pour toi ». La mort avait raison « Je voudrais qu'à cet âge on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage ? Je voudrais, dit-il, mais cette sagesse, visiblement, n'est pas la sienne. Et dans ces fables si légères, si douces, si humoristiques ou ironiques, il y a cette, quand même aussi cette présence, cette inquiétude de la mort, Jean-Yves Tadier.
Oui, alors ce qui est très curieux aussi chez lui, c'est parmi les valeurs qu'il refuse ou qu'il critique, il y a la jeunesse. L'éloge de la jeunesse n'est pas le sien. Il ne fait pas de jeunisme, comme on dirait maintenant. Au contraire, les personnes dont il fait l'éloge sont les vieillards. Se fait frappant dans la célèbre fable dont le style et les vers sont magnifiques, et le vieillard et les trois jeunes hommes. Donc les jeunes chez La Fontaine ont toujours tort contre les vieux, non pas du tout, parce que les vieux doivent maintenir, s'accrocher au pouvoir et ne laisser entrer personne, c'est qu'il y a chez eux quelque chose de tout à fait pathétique, c'est ceux qui regardent la mort en face, tandis que les jeunes ne la voient pas. On est vieux quand on aperçoit enfin la mort et qu'on a le courage de se révolter contre elle. Et en effet, ce qui me frappe, comme vous le disiez très bien, c'est une idée finalement de révolte contre la mort. Ce n'est pas Montaigne. Il n'y a pas chez La Fontaine une sorte de stoïcisme résigné. Au contraire, jamais. Selon moi, c'est plutôt quelqu'un qui voit la mort comme quelque chose de terrible et qui cherche simplement à la représenter, comme certains grands artistes l'ont fait, comme Goya, par exemple. Il la regarde en face et en même temps, il n'en veut pas.
Il n'en veut pas, voilà, c'est ça.
Il n'en montre nullement le charme, l'autre vie, on a accès au paradis, Dieu. Tout ça, il n'est pas question. Et en ce sens-là, c'est pas du tout un monde chrétien, à mon sens.
Oui, mais enfin,
Jacques Reda.
Ça, il a beaucoup évolué entre d'un bout à l'autre de sa vie d'adulte, je dirais. À la fin il était un chrétien typique de ce siècle. On a découvert qu'il portait un cilice après sa mort. Il avait aussi été en relation avec les gens de Port-Royal. On ne sait pas très bien comment, mais c'est de là que vient sans doute la composition d'un poème et très édifiant, le poème de la captivité de Saint-Malc, qui est très beau, qu'on ne lit plus beaucoup, mais où il est en même temps tout à fait présent. J'ai isolé dans le commentaire un certain nombre de passages assez courts dont on se demande dans ce poème de pure piété, d'éloge chrétien, qui pourrait figurer dans les vers, sinon même dans les contes, parce que tout à coup il y a c'est en même temps cette légèreté qui est celle de Perrette, n'est-ce pas, de son pot au lait, qui apparaît, et c'est le tempérament de La Fontaine qui se manifeste envers et contre tout. Mais dans le deuxième discours à Madame de la Sablière, il y a déjà une gravité dont il se moque un peu, parce qu'il prend toujours sa distance vis-à-vis de lui-même. Mais enfin, les derniers vers sont même un peu pompeux. On se demande s'il adhère vraiment à ce qu'il en dit. Je dis, qu'est-ce que vivre, Iris? On pouvait nous l'apprendre. C'est user des vrais biens. Alors les vrais biens, c'est reconnaître la grandeur de l'être suprême et renoncer aux petites aventures.
Mais il n'y a pas chez La Fontaine quand même la consolation d'un autre monde, la révolte contre la mort. De ce point de vue-là, reste entière.
Il en parle bien peu.
Les fables ne sont jamais une poésie catholique, ni même une poésie chrétienne.
Il y a le poème de Saint-Malc, voilà. Et puis il a quand même traduit le Dies Irae aussi. Il a fait une quantité de choses comme ça vers la fin de sa vie, mais c'est aussi pas tout à fait vers la fin de sa vie, mais il a 70 ans. C'est un des épisodes les plus drôles qu'on puisse trouver dans cette biographie, quand il tombe brusquement amoureux d'une jeune fille de qui en a 15, je crois, qu'il rencontre par hasard chez un ami, aux environs de Paris, où il est venu inviter. Il dit, mais qu'avait-il à faire de m'inviter alors que j'ai rencontré mademoiselle, je sais plus comment elle s'appelle. Et il est fou, il est tellement bouleversé qu'il veut retourner chez lui. Il était venu à cheval, il repart à cheval, il se perd dans la forêt. Il est obligé de passer la nuit dans un hameau, dans des conditions de confort tout à fait minables. Et il revient penaud, dit tant pis, les gens de mon espèce ne méritent que à mon âge. C'est toujours la même chose, c'est l'âge. Mais à 70 ans, je veux dire, il s'enflamme encore, je sais pas. Sans doute, ça a duré un certain temps encore. Enfin, je crois pas qu'il y ait eu de liaison entre cette toute jeune fille et La Fontaine. Il faut dire qu'à l'époque, lui-même, sa femme avait 15 ans quand il l'a épousée.
Quand il l'a épousée?
Oui, oui.
Et il avait quel âge, lui, à ce moment-là?
Moi, je suis pas très fort pour les dates, je sais pas, mais disons un peu après 30 ans, c'est des courants.
Alors, je vais tenter une petite objection.
Oui.
Je parlais d'un exercice d'admiration auquel nous nous livrons, vous livrez tous les deux, et j'essaie d'y apporter ma modeste contribution. Mais enfin, il y a une question qu'on peut se poser, qui est celle de l'alliance chez La Fontaine du bon sens et de la poésie, parce que certains pourraient dire que la morale de La Fontaine, de la plupart des fables, est plate et prosaïque. Et vous-même, d'ailleurs, Jacques Reda, vous dites qu'il peut apparaître comme le parangon de l'homme moyen, que sans la grâce, on pourrait le juger aussi rabâcheur que Cicéron. Et il y a certaines morales, si vous voulez, qui ont quelque chose de très petit bourgeois. Méfiance est mère de la sûreté. Garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Donc gardez-vous. Voilà. Et est-ce que il est toujours possible, après les orages romantiques, le déringlement rimbaldien de tous les sens, la fusion rêvée de la vie et de la poésie par les surréalistes, d'aimer La Fontaine en tant que poète? Je ne fais pas forcément mienne cette objection, mais je voudrais la livrer à votre sagacité, Jean-Yves Tadier.
Vous avez tout à fait raison, il y a eu des moments où il s'est exposé à des critiques très vives, et même on peut dire que son rôle officiel à l'école a pu lui nuire, parce que lorsqu'on a voulu se libérer de l'enseignement scolaire, on se libérait aussi des fables dont nous imposait la lecture. Et ce n'est pas toujours d'ailleurs les plus belles qu'on nous faisait apprendre. Mais le proverbe ou la morale finale, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que très souvent, c'est un exercice obligé. Exactement comme un grand compositeur qui fait des variations sur un thème, les variations sur un thème de Paganini, de Brahms. Brahms, c'est plus beau que Paganini. Et de même, La Fontaine, c'est plus beau que la morale. Et il y a même des fables où il ne prononce pas de morale tout à coup, tout en en plaisantant lui-même. Donc cette morale, on peut très bien s'en passer. Il y a d'ailleurs une chose qu'il faut noter. Vous savez que Marc Chagall a fait 100 gouaches pour illustrer La Fontaine. En 1926, c'est un moment où il voulait montrer qu'il n'était pas simplement russe, mais français, dans un pays où, assez curieusement, on a parfois une méfiance à l'égard des étrangers. Donc, il veut se montrer comme français. Donc, qu'est-ce qu'il choisit ? La Fontaine. Alors, les œuvres superbes qu'on n'a jamais montrées toutes à la fois, et qui avaient fait l'objet d'un livre fait par Thériade. Donc, nous sommes en 26, et Jean Chagall ne sait pas très bien le français, il n'est pas assez à ce moment-là pour comprendre La Fontaine. Sa femme le lui lit et il lui demande de ne pas lire la morale. Il dit « La morale, ce n'est pas fait pour moi ». Et les illustrations de Chagall, qui sont merveilleuses, La Fontaine sans morale, justement, mais La Fontaine prodigieux et qui vaut bien tout le mal qu'en pensent les surréalistes. Qu'on pense, et ils montrent qu'à la même époque, c'est une féerie, c'est une extraordinaire magie, ce sont les ballets russes, tout à coup, qui illustrent La Fontaine, comme plus tard, d'ailleurs, dans un autre genre, il y a les merveilleuses mises en scène de Bob Wilson. Donc, à partir de là, moi, je crois qu'il faut se libérer de ce La Fontaine scolaire, découvrir d'autres fables, et justement, toute leur violence critique, comme à la fin de L'homme et la couleuvre, quand il demande le serpent pour avoir critiqué l'homme et tué par lui, et alors La Fontaine pose la question, mais que faut-il donc faire ? Parler de loin ou bien se taire ? C'est ce qu'a fait Saint-Evremond partant pour l'Angleterre pour critiquer la France, par exemple. C'est un homme extrêmement courageux d'écrire cela sous Louis XIV. Que faut-il faire ? Parler de loin ou bien se taire ?
Il y a beaucoup d'autres morales, comme on dit, qui sont propres à La Fontaine et qui n'ont pas ce caractère de répétition d'une morale. Il ne faut pas oublier que les fables sont des imitations. Il s'est inspiré des fabulistes anciens. C'est bien fait, etc. Et il a certainement gardé aussi la morale que donnait c'est la vieille sagesse, c'est la sagesse des nations. Tout le monde connaît, on dit Péperadote, etc. Mais ça revient tout naturellement. Et c'était au fond peut-être aussi une façon d'excuser les autres libertés qu'il prenait vis-à-vis du pouvoir, en gros, des mœurs de son temps.
Justement, vous avez cité L'homme et la couleuvre. Dans L'homme et la couleuvre, Jean-Yves Stadier, il est dit à un moment donné que l'être le plus ingrat de la création, en fait, c'est l'homme. Donc, il y a un procès de l'homme qui, si vous voulez, évoque la polémique philosophique de La Fontaine avec Descartes.
Bien sûr,
dans
oui.
Le discours à Madame de la Sablière, il dit de certaines philosophies subtiles, engageantes et hardies, on l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non ouï parler ? Ils disent donc que la bête est une machine. Elle est la montre qui chemine. Et dans la fable qui suit et qui illustre ce discours, les deux rats, le renard et l'œuf, il dit qu'il ne faut pas attribuer aux animaux une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Donc il s'en prend à cette thèse des animaux machines. Et nous nous trouvons là dans une situation assez paradoxale aujourd'hui, parce que, d'une certaine manière, et le sens commun et la science ont donné raison à La Fontaine. Tout le monde est horrifié par ce geste connu de Malebranche qui a voulu taper dans une chienne qui était grosse, en disant devant Fontenelle, absolument ébahie, mais ne savez-vous pas que cela ne sent point ? Nous savons, d'ailleurs, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles, aujourd'hui dans le code pénal, et en même temps, nous sommes entrés dans l'ère de l'animal-machine, c'est-à-dire au moment où nous n'y croyons plus, la zootechnie le fabrique dans les fermes des mines vaches ou d'autres qui sont en fait des usines à lait, et la production animale, si vous voulez, réalise l'animal-machine au moment même où on donne raison à La Fontaine contre Descartes. Mais c'est une présence, une modernité de La Fontaine qui va très au-delà de la morale prosaïque et vulgaire à laquelle certains voudraient réduire ses fables.
En effet, c'est tout à fait passionnant. Pour La Fontaine, on pourrait dire que les animaux ont une pensée, simplement c'est pas une pensée réflexive. C'est pas une pensée de soi-même, mais c'est une pensée du monde. Et alors, à notre époque, le débat reste passionnant, puisqu'il y a eu des livres comme jadis ceux de Conrad Lorenz, montrant comment il n'y avait pas de rupture entre l'animalité et l'homme sur bien des points. Et on voit bien dans notre comportement, nous avons toutes sortes de traits communs avec les animaux. D'autre part, il y a un homme chimique à notre époque. C'est-à-dire, si on adopte les théories de Jean-Pierre Changeux, par exemple, l'homme n'est que réaction chimique. Donc, on est passé d'un homme mécanique ou d'un animal-machine à un homme chimique et un animal chimique. Et alors, souvent, il n'y a pas non plus, si on adopte cette conception de l'homme neuronal en qui il n'y a pas d'esprit indépendant du corps, à ce moment-là, nous sommes encore beaucoup plus proches des animaux que nous l'avons cru jusqu'à présent.
Et Jacques Rédard, vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème ?
Oui, c'est un sujet abyssal. Mais ce quoi je reviens, c'est sur le fait que la poésie de La Fontaine ne serait pas poétique. Elle ne l'est pas, effectivement, si on prend pour critère ce qui s'est passé à partir de Rimbaud. Ça, on a le droit de le faire, mais pourquoi n'y aurait-il pas une coexistence entre cette poésie de la... de la révolte, ou de la conquête, de l'inouï? C'est tout à fait légitime. Mais il me semble que la conquête de l'inouï est intéressante que chez quelques-uns, seuls quelques-uns sont capables d'aller chercher de l'inouï et de le rapporter. Donc, tandis qu'il y a quelque chose, je dirais, de plus démocratique dans l'usage du vers, qui fait que, comme c'est vraiment la pointe de la langue, c'est là que la langue arrive en fleur, et elle se développe au cours des siècles, se module. De telle façon, même change un peu, qu'on lui donne d'autres noms. On l'appelle Rudebeuf, on l'appelle Villon, on l'appelle Ronsard, etc. Jusqu'à Baudelaire et Apollinaire et Audiberti qu'on oublie toujours et beaucoup d'autres. Il me semble que c'est une sorte de travail de la langue pour épuiser ses possibilités et dans ce cas. Aucune tentative n'est négligeable. Tout sert. Tout le plus infime, le plus ridicule même quelquefois peut être utile à celui qui va justement aider la fleur à prendre un nouvel aspect, un nouveau parfum. Donc je crois que le vers français n'est pas mort. Il y a simplement une façon un peu malade de l'aborder.
Il me semble que si on se remet par la pensée dans l'esprit de cette époque, la poésie n'est pas du tout des symboles éclatants, une musique verbale, des règlements de tous les sens, c'est un discours orné. Depuis l'Antiquité, c'est comme ça, depuis Horace, depuis Virgile,
Théocrite,
c'est un discours en vers, avec des images, avec des rythmes, mais un discours orné, et on aurait bien surpris La Fontaine, certainement, si on l'avait mis en face du surréalisme. Donc, à partir de là, Il y a tout de même des choses qui nous frappent particulièrement lorsque nous aimons la poésie. Il y a très beaux vers musicaux que tout le monde connaît, sur les mots que vous avez cités tout à l'heure, à propos de la solitude. Il y a des thèmes qui, chez lui, font naître tout à coup des vers musicaux. La nature, notamment, la solitude, la mélancolie. Et puis, il y a un usage extraordinaire des rythmes qui est vraiment digne de ce que ce sera plus tard, au début du XXe siècle, même dans L'homme et la couleur, toujours, à propos des grands. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Tout à coup, un vers de trois pieds, qui ne fait absolument pas partie des règles de l'époque.
Ah non, ça, il était audacieux,
ces ruptures sont prodigieuses et c'est celle d'un grand poète. Donc il y a, il me semble, chez lui, une poésie verbale tout à fait extraordinaire. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que tout ce monde était nourri, par exemple, des odes d'Horace, qu'on a su par cœur jusqu'au XIXe siècle, peut-être jusqu'au début du XXe, d'ailleurs. Et les œuvres d'Horace n'apportent absolument rien de nouveau, elles non plus, elles traitent une matière. Mais le jeu rythmique, le jeu syntaxique, ce bouleversement des mots, était un plaisir pour le lecteur, et aussi une très grande difficulté quand il fallait les traduire, bien sûr. Il est formé à toute cette poésie acrobatique de Rome.
Oui, mais à l'époque, tous...
Alors les autres, au moins que j'ai dit, la fable est donc un genre codifié, il n'est pas le seul à écrire des fables, il se trouve que c'est lui qui émerge, et les autres ont disparu, comme Perrault pour les contes d'ailleurs.
C'est lui qui émerge, et donc pour rester dans ce siècle justement, il y a une image que La Fontaine utilise pour lui-même, et qui me semble très importante pour comprendre à la fois son art poétique et sa philosophie. Cette image, c'est celle de l'abeille. Hein, et d'ailleurs, elle est présente
à
dans...
À qui le bon Platon compare nos merveilles.
Voilà. Donc d'abord, dans Les Amours de Psyché et de Cupidon, un extrait que vous citez, il parle de quatre amis qui lièrent une espèce de société, une sorte d'académie, mais où rien ne sentait sa conférence académique. Ils aimaient converser, c'était l'art de la conversation, et ils aimaient parler des sciences ou de belles lettres, mais c'était toutefois sans s'arrêter trop longtemps à une même matière, voltigeant de propos en autres, comme des abeilles qui rencontreraient en leur chemin diverses sortes de fleurs. Et l'envie, la malignité, ni la cabale n'avaient de voix parmi eux. Ils adoraient les ouvrages des anciens, ne refusaient point à ceux des modernes les louanges qui leur sont dues, parlaient des leurs avec modestie et se donnaient des avis sincères lorsque quelqu'un d'eux tombait dans la maladie du siècle et faisait un livre, ce qui arrivait rarement. Et puis il y a le discours à Madame de la Sablière. Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi, papillon du Parnasse et semblable aux abeilles à qui le bon Platon compare nos merveilles. Je suis chose légère et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. À beaucoup de plaisir, je mêle un peu de gloire. J'irai plus haut peut-être au temple de mémoire si dans un genre seul j'avais usé mes jours. Mais quoi? Je suis volage en vers comme en amour. Et je dis que c'est aussi, c'est un art poétique, mais c'est aussi une philosophie, parce que cet éloge de l'abeille, ou cette représente de soi comme une abeille, m'évoque la polémique de Swift avec Descartes disant « réformer mes pensées et bâtir sur un fond qui fut tout à moi », et Jonathan Swift publiant le récit complet et véridique de la bataille livrée vendredi dernier entre les livres anciens et les livres modernes dans la bibliothèque Saint-James. C'est une rencontre entre une abeille et une araignée fière de tirer tout de son propre fond, grâce à ses savants calculs, avec des matériaux qu'elle a entièrement puisés en elle-même, et l'abeille lui répond « Oui, je rends visite aux fleurs qui éclosent dans les champs et jardins, et tout ce que j'y puise et collecte m'enrichit sans porter le moins du monde atteinte à leur beauté, à leur parfum, à leur saveur, et j'espère qu'à l'avenir, vous prendrez autant en considération la durée et la substance que la méthode et la technique. » Donc, La Fontaine se place du côté de l'abeille dans cette bataille du siècle, en quelque sorte, entre l'abeille et l'araignée. C'est aussi une réponse au discours de la méthode de Descartes.
Oui, cette question a agité tout le siècle, bien sûr, et encore le XVIIIe siècle. Et il y a à ce propos, d'ailleurs, des choses à remarquer à propos des allusions aux auteurs dans les fables. Il y a une chose que La Fontaine n'aime pas, c'est le plagiat. Si courant à notre époque, d'ailleurs, je dois le dire, les procès en plagiat sont nombreux et on pourra en faire d'autres. Mais au contraire, lui, si, c'est un apôtre de l'imitation, mais l'imitation, c'est le contraire du plagiat. Il y a une merveilleuse fable que vous donnez, Jacques, dans votre anthologie, qui s'appelle « Le singe », qui est assez obscure, qui est très courte, et qui se termine ainsi. « N'attendez rien de bon du peuple imitateur. » Qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre, la pire espèce, c'est l'auteur. Donc là, on voit bien, il y a une bonne imitation, qui est une sorte de qui est celle des abeilles, sans doute qui butine à droite et à gauche, et souvent on trouve qu'une source à une seule fable. Et puis, il y a une mauvaise imitation, qui est la copie, qui est le plagiat, qui est celle des gens qui n'ont rien à dire. Le bon imitateur est celui qui ressuscite le passé en le faisant nôtre, et le mauvais, c'est celui qui se contente de copier pour bâcler un livre qu'il n'est pas capable d'écrire lui-même.
Jacques Rédard.
Oui, il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un instant, c'est le poème du quinquennat qui a toujours été négligé par les commentateurs.
Oui, que vous
considérez. Vous... Oui, j'aurais voulu le donner en entier, c'est peut-être beaucoup, mais j'en ai donné d'assez larges extraits. Et c'est quand même une des grandes réussites de ce qu'on appelle la poésie scientifique, qui elle a fleuri de façon tout à fait considérable au XVIe et au XVIIe et au siècle en France. Et c'en est pas vraiment la fin, et c'en est l'aspect déjà porté vers la pratique, c'est-à-dire vers la pharmacie, en fait, l'éloge d'une nouvelle substance, quinquina, dont on a tiré ensuite la quinine, et qui montre chez La Fontaine la capacité de s'atteler à un travail qui était plus ou moins de commande et qui ne répondait pas nécessairement à ses connaissances, à ses goûts, et de s'en tirer avec le même charme qui vient spontanément dans ses fables ou ailleurs. Je pense que, quoi qu'il ait entrepris, il y était en somme tout entier avec son caractère, une sorte d'indolence active. Il le dit d'ailleurs, moi qui suis enfant du sommeil et des songes et du rêve. Et son indolence n'était pas feinte.
Mais en même temps, ce poème sur le quinquennat, que j'ai découvert grâce à vous, Jacques Rédard, j'en ignorais, je l'avoue, l'existence, ce poème pharmaceutique, se termine par ces trois vers. Il n'est ni bois, ni fleurs, ni racines qui, dans les tourments amoureux, puissent se servir de médecine. Donc, voilà, c'est pas non plus...
Toujours, rapport. Alors, sa vie amoureuse a été... On n'en sait pas grand-chose, au fond. On n'en sait pas grand-chose. Il a eu des liaisons, mais c'était toujours de façon extrêmement discrète. Il n'y a jamais eu de scandale ou de racontard autour de La Fontaine. Alors que c'est constamment présent. C'est constamment présent. Je pense que ces vers même sont d'un voluptueux naturel.
Vous avez parlé d'indolence. Je crois que vous utilisez aussi le terme de nonchalance dans votre livre. Et là, je voudrais vous apporter la réponse célèbre de Valéry dans Variété. La véritable condition d'un véritable poète est ce qu'il y a de plus distinct de l'état de rêve. Je n'y vois que recherche volontaire, assouplissement des pensées, consentement de l'âme à des gènes exquises et le triomphe perpétuel du sacrifice. Et il termine ce paragraphe. Ce ne fut jamais un jeu d'oisif que de soustraire un peu de grâce, un peu de clarté, un peu de durée à la mobilité des choses de l'esprit et que de changer ce qui passe en ce qui subsiste. Donc, il présente au contraire La Fontaine comme un travailleur, un artisan chevronné et acharné.
Mais on ne réussit pas ses vers, bien entendu, sans travail. Nous n'avons pas ces brouillons, mais on n'a pas les brouillons de personne à l'époque. Il n'y a pas de doute, c'est certainement le résultat d'un immense travail. Alors, pour revenir une seconde d'ailleurs à l'amour, Les deux pigeons, c'est un des plus beaux poèmes que l'on ait écrit sur le sujet. Il y aurait d'ailleurs C'était peut-être paradoxal s'il avait eu lui-même une existence sentimentale un peu agitée, que décrivent les deux pigeons qui sont l'éloge de l'amour unique. Mais il y aurait aussi un recueil à faire des paradoxes de La Fontaine. Des choses, par exemple, sa haine du voyage, je trouve ça extrêmement drôle, qu'on voit dans Les Deux Pigeons, mais qu'on voit aussi dans La Tortue et Les Deux Canards. Une tortue était à la tête légère, qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère, volontiers gens boiteux haïssent le logis. Donc si on veut s'en aller, c'est qu'on est boiteux. Il y a des choses très agressives ainsi pour nous tous qui ont la passion maintenant de 8 jours à Cape Town ou de 15 jours en Floride.
Oui, et en effet, il faut lire ces vers très célèbres des deux pigeons. « Amant, heureux amant, voulez-vous voyager, que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre, un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau, tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. » C'est vraiment, oui, un éloge, un panégyrique même, de la conjugalité. Dans ce poème, cette fable qui est en effet absolument magnifique. Bien, ben je crois que nous avons fait un peu cette promenade, nous avons terminé cette promenade avec La Fontaine. Je voudrais vous remercier, Jean-Yves Tadier et Jacques Reda. Je rappelle, Jacques Reda, que vous avez publié chez Buchet-Chastel un La Fontaine dans la collection Les auteurs de ma vie. J'ai cité également de Marc Fumaroli, Le peuple et le roi, Jean de La Fontaine en son siècle. Le livre a été publié aux éditions de Fallois et je me suis servi de l'édition des Fables de La Fontaine, de Marc Fumaroli justement, en livre de poche, dans la pochothèque du livre de poche. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est disponible pour toujours et podcastable pendant un an. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Le goût de la vie intense ». Mes invités seront Claude Habib et Tristan Garcia. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean-Michel Bernaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. L'Allemagne et l'accueil des autres, avec Sandrine Cotte.